Je voudrais vous inviter à ouvrir maintenant la parole de Dieu, si vous le permettez ensemble. Nous allons revenir à notre texte d'Hébreux chapitre 11 et nous allons arriver au verset 8 ce matin pour parler de ce patriarche dont l'auteur de l'épître va nous parler assez en longueur, puisque dans le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, c'est lui qui prend le plus de place dans ce chapitre par la description qu'en fait l'auteur. Alors vous avez trouvé Hébreux chapitre 11 et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 8. Vous avez trouvé ? Avant de lire la Bible, nous allons demander à Dieu sa bénédiction sur ces moments. Nous voulons, Seigneur, ensemble nous tenir devant toi, devant ta face, et nous voulons avec sérieux, avec conscience, réaliser que tu es présent au milieu de nous et que tu veux parler à chacun de nos cœurs, Seigneur. Nous ne sommes pas simplement venus pour nous faire du bien, mais nous sommes venus pour écouter ta voix. Et nous prions que par le Saint-Esprit, tu parles à chacun de nos cœurs et que tu révèles ta pensée et ta volonté, Seigneur. Oui, nous avons faim et soif de toi. Bénis ta parole, Seigneur, pour chacun d'entre nous et qu'elle soit comme cette manne. Seigneur, renouvelle en nous une bonne disposition de cœur afin que nous puissions recevoir ta parole comme ce qu'elle est, la parole vivante et efficace de Dieu. Bénis-nous chacun, Seigneur, nous te le demandons, dans le nom précieux de Jésus. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, et elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, ainsi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Les héros de la foi. Abraham est décrit comme un de ces héros, et vous avez remarqué le verset 13 qui s'applique finalement à tous les personnages dont le chapitre 11 va nous parler, puisqu'il y a comme une espèce de parenthèse dans cette lecture que nous avons faite. C'est le verset 13, 14, 15 et 16 où il nous est parlé de ces hommes et femmes de foi qui, pour certains, n'ont pas obtenu les choses auxquels ils ont cru. Et c'est très important de dire que la foi ne permet pas toujours d'obtenir les choses auxquelles nous croyons. Nous croyons à la guérison divine, est-ce que vous y croyez? Et des fois, on ne l'obtient pas, mais ça n'empêche pas qu'on y croit quand même. Parce que nous avons en vue un héritage meilleur. Nous nous projetons vers l'avenir, et par la foi, nous attendons non pas la régénération de notre corps charnel pour vivre encore des années sur la terre, mais nous attendons cette transformation qui aura lieu au jour de l'enlèvement, où nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et où nous revêtirons l'immortalité pour entrer dans la carrière, être avec le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Alors, on n'est pas de ceux qui perdent la foi parce que la chose ne s'accomplit pas, mais nous saluons par la foi les choses qui vont arriver. Et même si nous ne les obtenons pas, eh bien, la parole de Dieu nous dit et nous rappelle que nous devons ne pas oublier que notre vision doit être une vision à beaucoup plus long terme. C'est important que par la foi, nous n'oublions pas que nous ne sommes que pèlerins et voyageurs sur la terre. Et qu'un jour, eh bien, nous serons avec le Seigneur. Nous croyons aux promesses de Dieu, nous croyons que Dieu pourvoit, que Dieu guérit, que Dieu est capable de faire enfanter une femme stérile. Nous croyons que Dieu est capable d'accomplir des prodiges et des miracles, mais même si nous n'en sommes pas les bénéficiaires aujourd'hui, nous continuons à croire parce que nous savons que bientôt nos yeux verront le Seigneur. Et notre attente, elle n'est pas qu'ici-bas, parce que si notre espérance n'était que dans les jours de notre vie, nous serions les hommes et les femmes les plus malheureux. Mais nous savons que notre cité, elle est là-haut. Alléluia. C'est extraordinaire de voir qu'il nous a dit, justement, il attendait donc une cité qui est inébranlable, dont Dieu est l'architecte. Ces gens, donc, n'ont pas vu ces choses et pourtant, ils ont quand même cru. Et il y a comme cette espèce de parenthèse qui nous rappelle finalement que même au milieu de ce récit de la foi où Abraham et Sarah sont cités, eh bien, la parole de Dieu nous rappelle quand même que l'essentiel, c'est l'éternité avec le Seigneur. Remarquez que dans ce texte, il nous est cité « Monsieur et Madame ». Les deux sont associés, et que devant Dieu, il y a une parfaite égalité d'Abraham et de Sarah, qui tous les deux sont comptés comme faisant partie des héros de la foi. Le démarrage de l'histoire d'Abraham, eh bien, c'est quelque chose qui est surprenant, parce qu'il va commencer son périple au verset 8. Bien sûr, dans la Genèse, nous avons une description beaucoup plus précise de l'histoire d'Abraham, mais vous aurez le temps de lire ça certainement chez vous si vous le désirez, mais l'Écriture nous rappelle que le Seigneur a appelé Abraham. Mais quand on regarde l'Écriture, on se rend compte qu'à l'époque, Abraham était un païen. Abraham n'était pas un croyant. Abraham était un païen, c'était même un idolâtre. Et quand on lit dans Josué chapitre 24 et le verset 2, Josué rappelle à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Et c'est la raison pour laquelle Dieu a demandé à Abraham de quitter son père et sa mère, de quitter sa famille, de quitter son pays et de se rendre dans un pays qu'il lui montrerait. La foi, c'est important, surtout quand on ne sait pas où il faut aller. Va. Et l'Écriture nous dit que, eh bien, il est allé, il est parti. Il n'est pas parti à l'aveuglette, il n'est pas parti parce qu'il avait l'impression, parce qu'il avait une idée, parce que cela lui plaisait. Non, il est allé parce que Dieu lui a dit d'aller. Et on peut comprendre qu'entre le moment où Dieu s'est révélé à Abraham et le moment où Dieu va l'interpeller pour lui dire « va », il y a eu un certain laps de temps dont nous ne connaissons pas la chronologie, parce que l'Écriture ne dit pas tous les détails. Mais il semble quand même qu'Abraham avait appris à reconnaître la voix de Dieu. Et quand il entend le Seigneur, l'Éternel, lui dire « va », alors, reconnaissant la voix de Dieu, il va, il va. Les implications sont importantes parce que cela nous montre, premièrement, qu'il y a une relation entre Abraham et Dieu. On ne peut pas entendre la voix de Dieu quand on n'a pas de relation avec lui. Il faut, je crois, se souvenir de ce que disait le prophète Ésaïe lorsqu'il invite à se lever de bon matin pour écouter la voix du maître comme les disciples l'entendent afin d'avoir une parole exercée. C'est important de bien entendre ce que Dieu nous dit et de ne pas déformer ce que nous entendons de la part de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Non, Abraham a bien compris. Et sur cette déclaration, eh bien, nous voyons qu'une parole de Dieu va précéder et fonder la foi de l'homme de Dieu. Deuxièmement, je crois que c'est important de dire aussi que la foi, ce n'est pas mécanique. C'est un exercice, c'est un apprentissage, c'est pas une méthode, vous savez, c'est un lien d'amour et de dialogue envers Dieu. C'est aussi le fruit du don de l'esprit. La foi est vibrante, elle est vibrante de vie et d'amour. Et c'est important d'entretenir une relation avec le Seigneur, avec les Écritures. C'est important d'être en lien direct avec ce que Dieu nous dit, car nous avons là la lettre d'amour que Dieu nous a laissée. Et dans nos moments personnels, nous avons besoin de nous plonger dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Écoutez, écoutez la trompette d'argent. Faites entendre ces divins accents. On entend beaucoup de bruit aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses qu'on entend, beaucoup de choses qui sont dites. Mais est-ce que nous arrivons à entendre le Seigneur au milieu de tout ce brouhaha ? Est-ce que nous arrivons à entendre la voix de Dieu qui nous parle ? Dans nos moments d'inquiétude pour nous calmer, lorsque nous ne savons pas que faire, il nous montre la direction à prendre. Je crois que croire, c'est d'abord le résultat de notre amour. C'est le résultat de notre amour, parce que si nous savons que nous sommes aimés, et si nous aimons, eh bien nous n'aurons pas de mal à obéir. Hier, lors de la remise des diplômes, il a été dit aux étudiants que généralement, eh bien, le Seigneur nous envoie dans un lieu qu'on ne comprend pas. Et parfois même, il vaut mieux ne pas savoir où Dieu nous envoie, parce que si on le savait, on ne voudrait pas y aller. Alors souvent, Dieu nous envoie et on ne sait pas exactement où on va aller et on ne comprend pas le pourquoi. Et le prédicateur hier utilisait ce texte, vous savez, lorsqu'il nous est raconté que Philippe a été envoyé vers le chemin désert de Gaza. Mais pour y faire quoi? Alors qu'il était en plein réveil. Croyez-vous que Philippe a compris l'intention de Dieu? Certainement pas. Est-ce qu'il avait en perspective l'avenir? Certainement pas. Mais qu'a-t-il fait? Il a obéi. Par amour pour Dieu. Il s'est soumis à sa parole et il a pris la direction. Je crois que la foi est quelque chose qui est vivant à tel point que la foi va nous mettre en mouvement. Comme le disait quelqu'un, et comme l'a repris dernièrement quelqu'un, j'ai trouvé ça très amusant, je suis parfaitement d'accord, c'est que tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. Vous êtes bien d'accord avec ça? Alors moi, on m'a appris que si on veut que ça change, il faut qu'on arrête de faire ce qu'on a toujours fait. Parce que si on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Donc ça ne changera jamais. Donc il faut, pour que ça change, eh bien, qu'on commence à faire les choses de manière différente. Vous savez, les bonnes dispositions du premier rang, je vais changer. Donc si je vais changer, ça veut dire qu'il va falloir que je commence à modifier ma manière d'agir ou de réagir. Parce que le changement, eh bien, c'est aussi se mettre en route. C'est bouger, c'est avancer. Et l'appel de Dieu est plus fort que tous les autres repères d'Abraham. Il faut abandonner la sécurité, les facilités d'une vie prospère. Il faut quitter Charan pour aller dans un endroit qu'il ne connaît pas. La foi d'Abraham l'a fait bouger. Et je voudrais souligner ce matin que ce n'est pas tellement le déplacement géographique qui est important. Parce que vous savez, on peut déménager pour aller partout en France et on va se retrouver avec soi-même. Il y a des gens qui pensent que de changer d'environnement, ça améliorera leurs conditions. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est faux. Parce qu'en fait, on est toujours face à soi-même. On a beau s'habiller différemment, on a beau vivre dans un lieu différent, on a beau changer de métier, on se retrouve toujours confronté à soi-même. Et pour changer, il faut qu'il y ait cette transformation intérieure. Le récit de l'itinéraire d'Abraham nous est raconté dans la Genèse et il n'a pas été rectiligne. Vous savez, on a parfois l'impression que la foi, vous savez, c'est une direction qui est tellement précise qu'on va du point A au point B sans aucune digression. Mais quand on lit l'Écriture, on se rend compte qu'il y a eu quand même quelques atermoiements, il y a eu quand même quelques hésitations, parfois même des chemins raccourcis qui ont pris plus de temps que si on avait été dans la voie directe. Il a changé de lieu plusieurs fois en Canaan. Il a même séjourné en Égypte à cause de la famine. Par deux fois, il a cherché à se protéger du pouvoir en place en faisant passer Sarah pour sa sœur. C'était une demi-vérité. Vous savez ce que c'est qu'une demi-vérité? Alors, la foi d'Abraham est pour nous exemplaire, non pas dans le sens que l'homme, Abraham, était parfait, mais elle est exemplaire dans le sens où il était en chemin, il était en route. Et le Seigneur voudrait nous rappeler ce matin que nous nous donnons parfois des critères qui sont impossibles à atteindre. Et nous devenons les uns et les autres hypocrites avec nous-mêmes et hypocrites avec les autres et hypocrites avec Dieu parce qu'il est impossible d'être parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes en voie de perfection, mais nous avançons avec nos hauts et nos bas. Et il faut reconnaître que même nous, les hommes de Dieu, nous avons besoin de progresser dans les voies du Seigneur. Oui, oui, bien sûr. Celui qui voudrait nous dire ce matin « je suis parfait » serait le pire des menteurs. Parce qu'il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez, les hommes cités dans la parole de Dieu n'étaient pas des hommes parfaits. Moi, j'étais en train de repenser à David. Mais comment on pourrait utiliser, nous, aujourd'hui, quelqu'un qui a chuté aussi lamentablement? Généralement, quand quelqu'un a chuté, quand un serviteur de Dieu a chuté moralement, mais on n'en parle plus jamais. Et pourtant, la parole de Dieu nous cite David en exemple. Et Abraham, comment Abraham, vous trouvez que c'est un modèle de foi? Ah oui? Attendez, on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin. Il nous est dit dans la parole de Dieu, effectivement, qu'il a fallu qu'Abraham quitte avec ses racines. Il a fallu qu'il quitte ce lieu qu'il connaissait. Et il est parti, donc, par la foi, en direction de la terre que Dieu lui promettait, attendant, nous dit l'Écriture, une patrie céleste, une patrie meilleure. Et puis là arrive l'exemple de Sarah. L'exemple de Sarah nous est donné dans le verset 11 et le verset 12. Et là, donc, nous est rappelée à nouveau la promesse qui a été faite à Abraham au départ, « Tu seras le père d'une multitude. Ta postérité sera au plus aussi nombreuse que le sable de la plage, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Et vous savez, quand les deux hommes sont venus visiter, quand les trois hommes sont venus, pardon, visiter Abraham et quand il les a reçus, vous savez que l'Écriture nous dit que l'homme de Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ton épouse mettra au monde un enfant, un fils. Elle était de l'autre côté et elle a entendu et au vu de l'âge qu'elle avait et des rides qu'elle avait, vous savez ce qu'elle a dit ? Elle a rigolé. Et l'Écriture nous dit clairement ce qu'elle a dit. Hein, parce que l'Écriture est toujours très, très propre, mais très vraie. Est-ce que vraiment je peux avoir un enfant, moi qui suis vieille ? Elle a même dit, mais à l'âge que j'ai, est-ce que j'aurai encore du désir ? Ça veut dire qu'elle était tout à fait consciente de l'état physique dans lequel elle était. Et puis elle a été gênée quand le Seigneur lui dit « Mais tu as ri ?» Alors elle a dit « Non, non, j'ai pas ri. » Oui, mais Dieu entend tout, hein, même nos rires camouflés intérieurs, vous savez. On entend une parole et puis on se dit « Il est bien le frère, là. Il ne se rend pas compte. Hein. Il est utopiste dans ce qu'il raconte. » Elle a douté. Il y a eu un cheminement de foi de cette femme qui a attendu pendant des années. N'oublions pas quand même qu'avec son mari, il y a eu quand même de nombreuses approximations. Ils ont essayé d'accomplir la promesse de manière naturelle en utilisant la servante Agar comme mère porteuse. Et puis, Abraham ne s'est pas gardé de mettre sa femme en danger en la donnant littéralement à Pharaon et ensuite à Abimélec. Et vous savez ce qui s'est passé, ces deux hommes ont été avertis par le Seigneur. Et finalement, ils ont chassé Abraham en disant, mais pourquoi tu nous as fait une chose aussi terrible? Pourquoi tu as menti? Alors il a dit, j'avais peur. Le chemin de la foi n'est pas un chemin facile, c'est un chemin laborieux. Mais pourtant, c'est un chemin fascinant. Et je crois qu'au bout, on doit ne pas oublier que le Seigneur est toujours là pour répondre à notre attente. Alléluia. C'est pour ça que moi, j'aime pas entendre ces prédicateurs, vous savez, qui nous parlent la foi de manière tellement directe pour eux. T'as la foi, t'as pas la foi. C'est binaire. C'est ou t'as la foi ou t'as pas la foi. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'on a la foi, mais on est comme les disciples. Viens au secours de notre incrédulité. Oui. Est-ce que vous reconnaissez ici ce matin dans cette déclaration? Et pourtant, il nous est dit que Sarah était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. La parole de Dieu le dit. Or, le texte semble nous dire l'inverse. Une promesse si belle que, ben, elle a d'abord réagi en disant « mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible ». Il est même dit d'ailleurs qu'Abraham était marqué déjà par la mort. Mais seulement la fidélité de Dieu pouvait accomplir la promesse et dépasser l'analyse raisonnable de la situation. Est-ce que vous êtes arrivé de faire face à des situations qui sont confrontées avec les promesses de Dieu qui vont à l'envers de ce que vous êtes en train de vivre? Alors on est tenté de dire, ben, je suis trop petit, je suis trop indigne, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Parfois même, on a des rires intérieurs qui marquent notre incrédulité. Dieu ne peut pas m'aimer autant, ce n'est pas possible. Or, les promesses de Dieu sont pour nous. Elles sont oui et amen. Et même si la vie et les événements et les faits nous disent « ce n'est pas possible », même si nous sommes blessés, dévalorisés par le monde qui est souvent cruel, nous devons accepter et accueillir l'amour de Dieu, sa grâce et ses promesses, parce qu'elles sont pour chacun de nous. Alléluia. Les bontés de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin. Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout? Oui. J'aimerais vous dire que concernant Madame Mesuret, on était exactement comme les disciples qui priaient pour la libération de Pierre. On n'était pas mieux. C'est-à-dire, Seigneur, nous croyons que tu vas la délivrer, mais on n'était pas sûr. Soyons honnêtes. Qui d'entre nous sait ce que Dieu va faire? Dieu peut intervenir et il fait ce qu'il veut. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de lui, de son bon vouloir. Et Dieu nous a étonnés parce que quand nous sommes arrivés et que nous l'avons vu, et que nous avons vu l'évolution de sa santé au fil des semaines, au fil des jours, mais nous avons été émerveillés de l'œuvre de Dieu. Alors bien sûr, nous avons dit, oui, nous croyons. Oui, mais entre-temps, et la famille, est-ce que vous n'avez pas vécu la même chose? Et le Seigneur nous a fortifiés, nous a encouragés et nous a demandé de persévérer dans la prière et dans l'intercession. Ne soyons pas de ceux qui fanfaronnent et qui disent que nous serions différents des chrétiens qui, au départ, ont rencontré le Seigneur Jésus. Ne pensons pas que nous soyons meilleurs que l'Église primitive. Non, nous avons les mêmes difficultés dans nos vies. Nous aussi, nous sommes confrontés à ces mêmes problèmes par rapport à notre foi. Et nous devons souvent confesser que par la puissance qui agit en nous, celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et même demandons, parce que le Seigneur nous surprend toujours. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Mais on est toujours étonné. On est toujours surpris. On prie et puis quand on est guéri, on dit « Ah, Seigneur, c'est incroyable !» Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Personnellement, je pourrais dire aussi pareil. J'allais dire depuis maintenant deux mois et demi, ma santé est en train de s'améliorer par la grâce de Dieu. C'est un effet de la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu un moment particulier où, vous savez, j'ai ressenti un... Il y a des gens qui voudraient qu'il y a quelque chose qui leur tombe dessus. Non ! Dieu a fait une œuvre dans mon corps et je m'en rends compte tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça va mieux. Et je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais rappelons-nous quand même que c'est important de croire que Dieu peut tout. Il est même capable de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Et c'est important de faire attention pour ne pas mettre à mal notre foi, de ne pas nous concentrer uniquement sur l'accomplissement de la promesse, mais de nous concentrer sur celui qui la promet. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu n'est pas la promesse qui doit s'accomplir, l'enjeu pour nous, c'est de nous attacher à celui qui fait la promesse. Alléluia. Puisqu'il nous est parlé, justement au verset 13, de ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas vu les promesses auxquelles ils ont cru. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont espéré voir ce jour glorieux de la venue de Jésus et qui ne l'ont pas vu. On pourrait dire que tous les patriarches. Et puis les prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus. Nous savons que Jésus est venu, mais eux, ils ont salué sa venue. Ils l'ont fait par la foi. Et pourtant, ils ne l'ont pas vu de leurs yeux. Ils ne l'ont pas entendu de leurs oreilles. À l'époque, rien n'était écrit de ce que nous avons sous les yeux ce matin, mais nous aussi, nous voulons croire et nous attacher non pas simplement à la promesse, mais nous attacher à celui qui fait la promesse. Parce que la force de notre foi, ce n'est pas que les promesses se réalisent, mais c'est que Dieu demeure fidèle. Alléluia. Ça vous est arrivé de ne pas comprendre ? Ça vous arrive de ne pas comprendre ? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Frère, vous savez, maintenant, j'ai tout compris. » Alors là où on ne comprend pas, c'est l'exemple suivant qui est donné. Parce qu'il est d'abord parlé d'Abraham, il est parlé de Sarah, et puis alors, une fois que la promesse est arrivée, là, on pourrait se dire, tout est bien dans le meilleur des mondes. Ça y est, l'enfant est arrivé. Oui, mais quand il avait 14, 15 ans, 16 ans, l'Écriture nous dit que Dieu va à nouveau parler à Abraham. Et là, on arrive dans une incompréhension totale. C'est-à-dire que le Dieu qui a fait les promesses et qui a dit à Abraham quand sa postérité en Isaac, il aurait une nombreuse postérité, voilà que maintenant l'Éternel est en train de mettre sa foi à l'épreuve. Vous avez lu avec moi, vous avez bien fait attention. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Est-ce que c'est possible de s'arrêter un instant pour se dire, à l'époque, sans le Nouveau Testament, sans l'Ancien Testament, sans les nombreux récits et les bouquins que nous avons de témoignages, de miracles, de guérisons, de délivrances, etc., sans la présence du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, est-ce possible de se positionner à la place d'Abraham et d'essayer de comprendre quels ont été les sentiments de son cœur quand Dieu lui a parlé? Pensez-vous qu'il a compris? Moi, j'aimerais dire que même aujourd'hui, on pourrait dire que c'est incompréhensible. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de tester la foi de quelqu'un? N'y a-t-il pas d'autre moyen de mettre quelqu'un à l'épreuve que de lui demander son fils? Or, vous le savez, il y a là comme un message messianique, car Isaac nous parle aussi de Jésus, du Christ, qui a été sacrifié, mais qui, lui, a été sacrifié jusqu'au bout, qui a été l'agneau immolé. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et ce n'est pas n'importe lequel. Il aurait pu demander de sacrifier Ismaël. Non, il lui demande de sacrifier Isaac. Dieu demande à Abraham, maintenant, de mettre à mort celui par lequel il lui a promis une descendance. Quelle contradiction! Dieu donne, et puis Dieu reprend. Vous vous rappelez, on a chanté. Et je me souviens la première fois que M. Mesuré a rendu témoignage par rapport à l'expérience de son épouse, en disant, « Maintenant, quand je chante, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, ça n'a pas le même sens. Ça n'a pas le même sens. » La lettre aux Hébreux nous explique en fait qu'Abraham avait une telle connaissance de Dieu. Je ne sais pas quelle était sa connaissance de Dieu, comment pouvait-il le comprendre, qu'il était convaincu au fond de son cœur, nous le lisons ici au verset 19, que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Mais quel exemple avait-il autour de lui pour dire que c'était possible? Vous savez, je me dis que quelque part, on a besoin de revenir à l'Écriture parce qu'on est tellement inondé de littérature, on est tellement inondé d'exemples, de témoignages, et puis il y a tellement de gens qui font de la publicité aux témoignages, qui sont partout. Mais quand nous lisons la Genèse, il s'en va avec ses serviteurs, et puis il nous est dit que, à un moment donné, il va dire à ses serviteurs, restez ici, écoutez bien, avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Il n'a pas dit « je reviendrai vers vous ». Il a dit, puis nous reviendrons vers vous. Et chaque fois que le garçon lui pose la question, mais attends papa, il y a un problème, parce qu'on a, le bois, mais l'animal. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Attendez, le père, il savait très bien. Il savait très bien. La foi d'Abraham a dépassé même les limites du monde naturel et mesurable. Il s'est abandonné à Dieu, dont l'être et la puissance vont au-delà du visible. Et pour nous, n'est-ce pas vrai que c'est difficile d'abandonner ? Parce qu'on veut toujours maîtriser. On veut tout le temps tout contrôler. Hein ? Et on est mal à l'aise quand on ne sait plus ce qui va se passer. Quand on n'a pas la maîtrise des événements, des situations. C'est difficile de lâcher. Difficile de faire confiance à Dieu au point d'être dans cette incertitude telle qu'on ne peut plus rien maîtriser. Et au point où il en est, imaginez-vous, au point où il en est, il n'a plus la possibilité de faire marche arrière. Il doit aller jusqu'au bout. Et ce matin, je voudrais simplement nous rappeler que c'est dans ces moments-là que nous sommes vraiment bénis, quand nous lâchons prise et quand nous faisons confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas les voies dans lesquelles Dieu nous conduit. Vous dites, je crois, Seigneur. Alléluia. Et je disais, il y a deux dimanches, c'est la différence que l'on fait entre croire en Dieu et croire Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui disent « je crois en Dieu ». Mais est-ce que vous croyez Dieu ? Et si vous croyez Dieu, êtes-vous capable de vous laisser conduire à l'aveuglette dans des situations qui vous semblent absolument impossibles, n'ayant pas la maîtrise des événements, mais sachant que Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer ? L'espérance est attachée à cette foi qui nous invite à lui faire pleinement confiance. Et ce matin, eh bien, en citant cet exemple d'Abraham, je voudrais nous encourager à croire que la foi n'est pas un chemin aussi aisé qu'on le dit parfois. Oui, nous croyons, et je crois de tout mon cœur, que Dieu peut faire au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Et Dieu nous le prouve, et Dieu nous le montre, et nous le vivons, les uns et les autres. Et il y aurait tellement de témoignages qu'on pourrait donner ce matin de gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Nous le voyons non seulement dans notre santé, mais nous le voyons dans nos travaux, dans notre travail, dans notre métier. Nous voyons de quelle manière Dieu pourvoit à nos besoins financiers, comment Dieu étend sa main. Alléluia. Là, par la grâce de Dieu, cette semaine dernière, nous avons signé chez le notaire, et nous sommes propriétaire d'un bâtiment pour l'église de Pauillac qui nous a été donné par une personne qui a eu à cœur pour l'œuvre de Dieu de la faire avancer. Donc, il nous a donné l'argent pour pouvoir acheter un bâtiment que nous allons pouvoir utiliser pour faire les réunions. Et ça, c'est inespéré. On dit, mais Dieu, mais c'est extraordinaire. Et en même temps, on disait, Seigneur, mais il faut qu'il y ait aussi du monde, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour nous aider dans l'évangélisation. Et voilà que ce mois-ci arrive à Pauillac un couple qui arrivent de La Roche-sur-Yon. Ils ont 5 enfants, et le frère, il a à cœur l'évangélisation. C'est un ancien de l'assemblée de La Roche-sur-Yon. Il s'occupe de groupes de maisons, il a à cœur l'évangélisation, et ils habitent où, vous savez ? À Pauillac. Ils ont trouvé une maison à Pauillac. Le frère a cherché partout, ils n'ont pas trouvé, et puis c'est à Pauillac que le Seigneur les a plantés, et ils nous disaient, mais nous croyons que Dieu nous a envoyés là, au moment où le Seigneur l'a voulu. Est-ce que vous croyez au miracle ? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. On n'attendait pas que ça nous arrive. On n'attendait même pas que Dieu nous donne ce bâtiment, que Dieu nous donne les moyens de l'acquérir. On n'avait même pas projeté ça. Est-ce que vous vous rappelez l'Assemblée Générale ? On n'a pas parlé de bâtiment, etc. Mais Dieu avait déjà tout ça entre ses mains. Et le Seigneur nous émerveille. Il nous émerveille. Le Seigneur fait au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Mais le chemin pour y arriver, il est parfois pas toujours évident. Alors ce matin, je voudrais vous encourager pour vous dire que Dieu ne nous juge pas par rapport à la situation dans laquelle nous sommes maintenant, mais ce qui est important pour lui, c'est que nous soyons en marche, que nous soyons en chemin. Et c'est ça qui est important, c'est que le Seigneur, eh bien, nous invite à marcher à sa suite, à ne pas nous inquiéter, mais à avancer, parce que c'est lui qui opérera l'œuvre dans notre cœur pour nous amener jusque à bon port. Et j'aime bien ce texte de l'Écriture qui nous dit que ce que Dieu a commencé en nous, eh bien, il va le parfaire. Alléluia. Vous le croyez, ça ? Le Seigneur va le parfaire. Le Seigneur n'a pas encore sauvé les membres de votre famille. Il y a des enfants qui sont rebelles à l'Évangile. Vous avez peut-être des parents qui se refusent à se tourner vers le Seigneur. Peut-être vous avez un conjoint qui n'est pas converti. Et plus vous priez, plus il semble que ça va à l'envers. Il semblerait que le Seigneur ne réponde pas à votre prière ce matin. Je voudrais vous inviter à croire, non pas à la promesse, mais à ce Dieu qui fait les promesses. Parce que Dieu peut tout. Et il peut faire même des choses qui ne sont jamais arrivées. Y avait-il eu, à l'époque, déjà une résurrection d'entre les morts, à l'époque d'Abraham ? En tout cas, pas que je ne le sache, parce que l'Écriture n'en raconte pas. La première qui va arriver, c'est, vous savez, quand dans l'histoire d'Élisée, on va jeter avec précipitation le cadavre d'un homme dans le tombeau d'Élisée, et qu'en touchant les os d'Élisée, l'homme revient à la vie. Ça a dû faire drôle aux gens qui allaient l'enterrer. Hein ? Ils ont dû avoir peur. Ils se sauvaient parce qu'il y avait les ennemis, mais là, ils ont dû courir encore plus vite. Dieu a fait le miracle. Première résurrection d'entre les morts. Donc Abraham ne savait pas, mais Dieu a fait même mieux que cela. Il lui a rendu son enfant parce qu'il y avait là, et vous connaissez l'histoire, il y avait là un animal qui était retenu par les cornes, et puis là, il a offert cet animal en sacrifice, parce que l'image de Jésus ne pouvait pas être complète dans la personne d'Isaac. Il fallait que quelqu'un se substitue, parce que Isaac ne pouvait pas être offert à Dieu. Le seul homme qui a été offert à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est la seule offrande qui a été acceptable. Ce matin, eh bien, je vous invite tout simplement à lui faire pleinement confiance. Tournez les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Voulez-vous prier avec moi ce matin ? Nous voulons nous recueillir quelques instants et j'aimerais simplement vous encourager les uns et les autres dans cette démarche. Peut-être qu'il y a effectivement, et vous le reconnaissez, des hauts et des bas dans votre vie, il y a des moments de certitude, des moments d'inquiétude, des moments de conviction, des moments de déception. Mais ce matin, le Seigneur tout simplement vous invite à continuer à marcher avec lui. Et comme Abraham a avancé, eh bien, continuez d'avancer dans la foi. Il est, lui, le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Et ce matin, le Seigneur voudrait vous dire que comme il a conduit Abraham et Sarah jusqu'à cet accomplissement extraordinaire de la promesse et à l'accomplissement aussi de la réalisation du plan, puisque la postérité, c'est le peuple d'Israël. Au travers d'Abraham est née une nation, le peuple hébreu, qui est devenu ensuite le peuple juif, que Dieu a conduit, que Dieu a aimé et qu'il continue d'aimer encore jusqu'à la fin des siècles, pour lequel il y a des promesses. Ce matin, le Seigneur voudrait vous dire qu'il ne veut pas vous oublier, qu'il ne vous oublie pas, mais qu'il prend soin de vous. Même si des années sont passées, même si vous ne voyez rien bouger, continuez de croire, non pas à la promesse, mais dans le Dieu qui fait les promesses. Continuez de lui faire confiance et au moment opportun, il agira. S'il y a quelqu'un qui a besoin que l'on prie pour lui, dans ce domaine particulier, je voudrais l'inviter à se lever là où il est. Et nous allons conclure par la prière avant d'écouter quelques annonces. Voudriez-vous faire cette démarche simplement en disant, Seigneur, oui, c'est vrai, ma vie est chaotique. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais ce matin, je voudrais me livrer complètement à toi et te dire, Seigneur, prends-moi tout entier. J'ai des difficultés, je le reconnais. Mais Seigneur, en me souvenant cet exemple d'Abraham et de Sarah ce matin, je veux moi aussi me livrer totalement à toi, sachant que tu as les tenants et les aboutissants. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur, tu vois ceux et celles qui se lèvent maintenant. Je te prie dans ta grâce que tu étends ta main sur eux et que tu leur donnes, comme à chacun d'entre nous, de continuer à marcher dans tes voies sans nous détourner ni à droite ni à gauche. Nous voulons, Seigneur, être à l'écoute de ta voix et nous voulons surtout ne jamais perdre de vue celui qui est l'auteur des promesses, celui qui est le dispensateur de la grâce. Oui, par un homme sont entrés le péché et la condamnation dans le monde, mais par un homme sont entrés la grâce et la vérité, par Jésus-Christ. Et ce matin, c'est vers lui que nous tournons nos regards. Nous voulons te demander que par ta grâce, tu nous donnes de ne jamais nous détourner de la personne de Jésus et que nous puissions mieux le connaître afin que cette relation d'intimité nous invite à une expérience encore plus grande de toi. Seigneur, veille sur chacun de nous. Seigneur, veille sur chacune de ces familles représentées. Tu connais les besoins, tu connais les situations particulières. Je te prie que ce matin, tu répondes à l'attente de chacun et que tu manifestes ta grâce. Père, nous te le demandons tous ensemble. Et nous te disons merci parce que tu agis maintenant dans le nom précieux de Jésus. Amen.